C'est terminé. Victoire de 3-1 du FC Cincinnati malgré un but tardif marqué par Montréal. Cincinnati avait pris les devants 3-0 grâce à un très grand Evander ce soir. Et c'est une victoire des visiteurs qui, pour la première fois depuis 2019, l'emporte au stade Saputo.
Un match qui s'est dessiné là en deuxième mi-temps avec un but finalement là qui a quand même pesé lourd, encaissé à toute fin de la première demi et qui a mis Montréal en une situation très compliquée. Et un match qui semble laisser des séquelles physiques avec les sorties sur blessure de Piet, de Clark.
Et de Neal aussi.
C'est trois pertes qu'il faudra observer de près là, pour le match à venir contre New York.
Ben Sid, on va s'arrêter quelques instants alors que le match vient de se terminer. Au retour, émission d'après-match, restez avec nous. On va notamment prendre vos appels. On va entendre la conférence de presse d'après-match. Si vous voulez déjà réserver vos circuits, 514-790-0919. On va prendre vos appels pour votre retour à la maison. Si vous étiez au stade ou si vous avez écouté ce match, regardez ce match, appelez-nous. On peut savoir ce que vous en avez pensé. Au retour, début de l'émission d'après-match, on aura notamment un joueur du CF Montréal en entrevue avec nous.
La fierté de Montréal se bâtit autour du sport. Le soccer, sport de tous les Montréalais. Ensemble avec le CF Montréal. L'après-match.
Après-match de ce duel entre le CF Montréal et le FC Cincinnati qui commence à l'instant sur BPM Sport, Jasmin Leroux et Sidney Faux qui vous accompagnent depuis 18h30 pour ce duel qui était le retour à la maison de Montréal après un peu plus de 3 semaines d'absence. Dernier match qui avait été le 31 mai dernier, ça a été un duel où Montréal a eu l'occasion dans les premières minutes du match de prendre les devants, d'excellentes chances obtenues notamment par Tom Pierce et quelques autres aussi, particulièrement Tom Pierce. On n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. Cincinnati, en fin de première demi, a marqué via Evander pour faire 1-0 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, dès la 65e minute, 20 minutes après le retour des vestiaires, magnifique but marqué par Orechano sur une passe d'Evander, qui a lui-même marqué le troisième but à la 83e minute. Seul but de Montréal marqué par Prince Owusu dans le temps ajouté, à la 90e minute, tout près là, du temps ajouté, si ce n'était pas dans le temps ajouté. Et qui nous amène donc, Sid, à cette défaite de 3-1 de Montréal.
Ouais, défaite, somme toute logique, avec des joueurs désignés qui font la différence côté de Cincinnati. Et le regret de ces occasions là non converties pour les Montréalais. Alors que je surveille d'un coin de l'œil. Si Victor Lautoury là se présente pour notre entrevue d'après-match.
Ouais, on devrait pouvoir avoir Victor Lautoury dans les prochains instants en entrevue avec
mais
nous.
Comme l'impression que c'est plutôt Petrasso là qui s'amène, mais
je ne vois plus Lautoury. Quoi que Lautoury, il est là sur le terrain là-bas là. Évidemment, on le voit en direct. Vous ne le voyez pas évidemment là, mais
c'est possible que ce soit pour. Des collègues.
Ouais, pour RDS. Je pense que Victor Lautoury va s'amener dans quelques instants avec nous, Sid, pour avoir ses commentaires sur cette rencontre-là. Il a eu à travailler très fort au milieu de terrain. On savait que les options de remplacement étaient faibles. Alors, Victor Lautoury est là.
Hi, Victor. Victor, you with us?
Yeah.
Tough loss. What's your immediate reaction to tonight's result? What do you feel was missing collectively?
Obviously, it's a big disappointment. We were ready for the game. I just feel some moments of the game that we caught sleeping. We were switched off and they capitalized on it. And those are the 3 goals they scored. So just focusness, honestly.
Cincinnati seem to have a bit of advantage with key moments. What made them difficult to play against?
Yeah, we know they're a good team. We know that they have good players, and yeah, they showed today. And yeah, we switched off in some moments, and they punished us.
And despite the loss, what positives can you take from your collective performance, and how do you bounce back as a group?
Yeah, obviously, I feel like in the first half we had created good chances, could have took the lead a couple of times. So we just have to take those positives going forward, and then just try to build.
Thank you, Victor.
Thank you.
Alors, on vient d'entendre Victor Lautoury au terme de cette défaite du CF Montréal. On le sentait évidemment abattu là, par ce résultat, Sid. Victoire difficile. Il mentionnait qu'il savait là, qu'il y avait de gros joueurs en face à affronter. Il a parlé là, de certains moments où on n'a pas réussi à prendre l'avantage d'avoir le momentum, comme on dit, pour aller gagner ce match-là.
Oui, tout à fait. On en revient à Tom Pierce. Je n'ai pas envie de lui mettre la défaite sur le dos, mais... Il y a eu des situations où il devait mieux faire. Et si Montréal est capable de prendre l'avantage, chose qu'on a si peu dit cette saison, Jasmin. Je m'en rappelle que limite à chaque fois qu'on a eu l'occasion de le faire, parce que Montréal, que ce soit contre NYCFC ou bien contre Houston, ça fait partie de ces trois matchs où Montréal a pris les devants. Et ce but-là, qui n'a pas été inscrit suite à des situations dont Tom Pierce était le dernier maillon de la chaîne, ben ça fait mal. Et on peut rajouter à ça Dante Cilli, qui selon moi fait le plus dur dans sa prise de balle, le fixage qu'il fait de son vis-à-vis, et ensuite se retrouve pas en face des buts mais dans une position plus que favorable, puis envoie cette mine au-dessus des filets. C'est pas ça qui permet à Montréal de pouvoir dans un match se donner les moyens contre une des meilleures équipes de l'Est d'exister, et c'est ça qui a manqué. On peut bien parler de beaucoup d'aspects, et par contre, si dans la boîte tu es à ce point-là si peu décisif, tu vas jamais t'en sortir.
Tu as parlé, Sid, avec Victor, du positif là, qu'on peut peut-être aller chercher pour regarder vers l'avant. Et le regarder vers l'avant, ben, il va arriver rapidement cet avant-là, parce que c'est samedi contre New York et ce sera au Stade Saputo sur BPM Sport. Il n'a pas été nécessairement très loquace, Victor, à ce sujet-là, mais il va revenir très vite ce match-là. Et là, ben, forcément, la première question, ce sera au niveau des blessés qui sont sortis ce soir.
Ah oui, là, c'est vrai qu'il y a le casse-tête qui a été déjà très compliqué. À combien? 1000? 2000 pièces?
As-tu déjà fait des 10 000 pièces,
Sid? Non, mais j'ai l'impression que du côté du staff technique, on en est là. Parce que, et même en 3D, je te dirais. Parce que là, c'est compliqué à trouver des solutions. Bon.
Est-ce qu'on est mieux pour une retraite dans un chalet pour aller faire des casse-têtes, toi et moi, ensemble?
Avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions, les auditeurs, n'hésitez pas sur les lignes de nous faire part un peu de vos hobbies. Mais j'ai envie de dire que malgré le retour de Dante Cilli, on n'est pas sorti de l'auberge. Un Samuel Piet qui, s'il n'est pas en mesure de jouer, c'est vraiment un gros morceau là, que tu perds au milieu de terrain.
Ouais, lui, j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce que c'était une sortie pour fatigue ou c'était une sortie pour une alerte physique? C'est ça qui était difficile à voir sur le direct, là, Sid.
Oui, alors qu'on n'a pas forcément vu comment c'est arrivé. On avait notre attention sur Bougaï, qui était le joueur
qui allait sortir.
Et par la suite, on a vu Samuel Piet faire un signe à son banc pour demander le changement. Ajoute à ça une charnière centrale qui donne satisfaction, Campbell et Neil, qu'on va devoir peut-être chambouler avec la présence de Craig ou d'Alvarez. C'est vrai que tu abordes ce match contre NYCFC qui était déjà compliqué dans tous les cas, avec peut-être encore deux prises en main. Pour faire un peu une petite analogie avec le baseball.
D'ailleurs, on joue NYCFC sur un terrain de baseball, alors l'analogie est bonne quand même, le lien vient de là.
Voilà, tout à fait.
514-790-0919, si vous voulez nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous entendre en ondes. Si vous étiez au stade, si vous avez écouté ce match avec nous à la radio, si vous l'avez regardé, appelez-nous pour avoir votre ressenti sur ce duel-là qui s'est terminé dans les dernières minutes pour le CF Montréal avec une défaite de 3-1. On va entendre dans les prochaines minutes, bien sûr, les commentaires d'après-match. Sid, est-ce que ça a été confirmé? J'ai hâte de voir. Est-ce que ce sera David Sauvry qui va être là à la conférence de presse ou est-ce que ce sera Marco Donadel? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse à la question. Est-ce que ce sera Sauvry qui a dirigé le match? Enfin bref, peu importe qui sera là, on va être là pour l'entendre.
C'est très intéressant comme question. C'est...
Est-ce qu'on va dire à Sauvry, c'est toi qui étais là ce soir, entre guillemets, vis l'expérience jusqu'à fond, ou est-ce que Donadel va venir faire l'entrevue d'après-match pour laquelle il a le droit, là, si je ne me trompe pas, de venir faire...
Là,
je suis dans la politique MLS.
Là, tu plonges très loin dans le livre de règlement MLS.
Je n'ai pas la réponse.
Je dois t'avouer que c'est une page que je n'ai pas encore lue.
Exact. Mais on va le voir. Ce que je veux dire par là, là, c'est qu'on va avoir les entrevues d'après-match, peu importe qui sera au podium. On va vous présenter ça dans les prochaines minutes. Je vous propose qu'on s'arrête pour une petite pause. Au retour, cette émission d'après-match qui se poursuit. Le CF Montréal qui s'incline 3-1 contre le FC Cincinnati. Réservez vos circuits 514-790-0919. Appelez-nous. On a hâte de vous entendre sur votre retour à la maison ce soir sur BPM Sport.
Vous écoutez l'après-match du CF Montréal.
BPM Sport.
On est de retour en direct du stade Saputo. C'est une défaite de 3-1 du CF Montréal contre le FC Cincinnati. Émission d'après-match qui se poursuit sur BPM Sport. On va entendre dans les prochaines minutes les commentaires d'après-match du côté du CF Montréal. On va évidemment prendre vos appels aussi. Appelez-nous 514-790-0919 et on va commencer notre ligne ouverte ce soir avec Jérôme qui est en ligne avec nous. Salut Jérôme, comment tu vas?
Hey, salut, ça va bien? Hey, j'ai été au stade à soir.
Comment tu as trouvé ta soirée?
Ben, j'adorais la soirée, sauf que l'équipe, il faut vraiment se rendre compte que c'est pas, il manque de punch un peu, hein, en punch.
Ouais, ben contre Houston, ça avait été un bon match il y a une dizaine de jours. Ce soir, c'était un gros client qu'il y avait quand même contre Cincinnati. Puis en début de match, nous, on trouvait là, que Montréal avait eu des bonnes occasions. Comment tu avais vu ça, toi, ce match-là?
Oui, c'est ça, mais il y avait beaucoup d'opportunités, mais ça, c'est ça. Ils ont quasiment contrôlé le ballon. Je sais pas les statistiques de la première mi-temps, là, c'est quoi, mais ils ont contrôlé une partie de la première mi-temps. Puis j'ai trouvé ça de valeur qu'ils scorent un but à la fin de la mi-temps. Ça a enlevé le momentum, mais bref, on va essayer d'encourager l'équipe quand même. Puis, continue, mais c'est ça, je m'ennuie des gros punchers, là.
Ouais, il y en avait deux gros du côté de Cincinnati ce soir. Il y en a un qu'on a vu en particulier, Evander, qui a eu tout un match. Mais tu fais bien de parler de ce but-là avant la mi-temps parce que ça a scié un peu les jambes. On tenait, comme on dit, là, jusqu'à 0-0 à la mi-temps. Puis ce but-là a changé même le match. Là.
Mais j'ai trouvé ça le fun. Il y avait quand même du monde pas mal. Puis le monde était de bonne humeur pareil.
Ouais, puis je sais pas si tu as eu la chance d'y aller depuis le début de la saison au stade Saputo, mais je pense que c'est de loin la plus belle soirée niveau météo qu'on a fait depuis le début de la saison.
Oui, aussi. Fait que j'espère que samedi, ça va bien aller. Mais Camara, il est rendu là. C'est pas son talent vraiment, là, mais je trouve que c'est un gars qui est le fun d'avoir joué à Montréal.
Ouais, Camara, il est rendu, je pense, à 13 équipes en MLS. Alors, il faut suivre parce que ça enchaîne vite, Camara, quand même. Là.
Mais il dit qu'à chaque place qu'elle a, il disait que c'était la meilleure place.
Ouais, c'est... ouais, ça, il y a des artistes aussi qui font ça dans des tournées de spectacle. Ben, aussi,
plein,
à chaque fois qu'ils vont dans une ville.
Mais
oui, c'est ça. Mais...
Okay, hey, merci beaucoup, là, puis bonne soirée.
Ça a été un plaisir, Jérôme. Tu rappelles quand tu veux.
OK, merci, bye.
Jérôme qui était avec nous, appelez-nous 514-790-0919. On va prendre un deuxième appel et c'est un habitué de nos lignes ouvertes, Victorin, qui est avec nous. Comment tu vas, Victorin?
Bien.
Je sais que tu es là à chaque soir au stade ou presque à chaque soir. En tout cas, comment tu as trouvé le match ce soir?
Moyen.
Ouais, moyen, c'est ça qu'on se disait aussi.
Ben t'as... nous, on est parti à 80, on est parti à 75e. Dès que c'est 3-0, on dit non, ils peuvent jamais revenir.
Ouais, ils sont pas venus. Ils ont marqué un but en fin de match, là, mais t'as manqué un petit peu en fin de rencontre. Là. Il y a eu quelques beaux moments quand même là, de Montréal, mais je te comprends d'être parti quand même. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, avaient un retour à la maison à faire. L'école doit être terminée quand même. Là. Au moins, t'es en vacances, là, Victorin. Là.
Vacances d'école,
bon. Mais écoute, je te souhaite une bonne vacance cet été. Je suis certain que tu vas revenir au stade parce que t'es là presque à chaque match, puis tu vas nous rappeler.
Sauf quand c'est à Atlanta ou Houston.
Ouais, ça, je te comprends de pas aller à Atlanta puis à Houston. C'est des beaux endroits à visiter, mais tu vas avoir le temps de le faire plus tard dans ta vie, je suis certain. En attendant, concentre-toi sur Montréal. C'est le fun que tu sois là à Montréal presque à chaque match.
OK.
Merci, Victorin. Alors, on vous invite à poursuivre les appels 514-790-0919. Sid, on l'a entendu avec Jérôme. C'est dommage un peu cette rencontre-là, puis le punch qu'il a manqué, il en a parlé de ce côté-là en attaque là, qui a fait défaut pour Montréal ce soir. Là.
Oui, c'est vrai que Montréal a manqué de, peut-être de talent intrinsèque là, pour faire des différences de, sur les chances qui lui ont été données. C'est pas forcément un match où on a manqué de situations offensives. Parfois c'est le cas, mais là on a créé assez de chances pour se donner les moyens d'inscrire 1, 2, 3 buts. Et voilà, il a manqué un peu plus de talent tout simplement pour avoir la lucidité dans le dernier geste afin de faire la différence. C'est ce qui n'a pas été le cas pour Montréal ce soir. Ce qui a dérangé aussi Jasmin sur la deuxième mi-temps, on l'a quand même senti, c'est l'absence d'un sentiment de révolte. La fatigue est toujours évoquée. Sauf que là, dans la situation présente, ben, le dernier match remonté au 14 juin face à Houston, c'est un groupe tout de même qui a pu prendre un peu de repos, s'entraîner dans des conditions qui étaient favorables. Et on n'a vraiment pas senti de second souffle dans la deuxième mi-temps. Et au 2-0, on était là en attente de quelque chose. Et ce quelque chose n'est jamais venu côté montréalais. Et ça c'est tout de même un peu problématique.
Et au mois de mai, Marco Donadel, parfois sur ce genre de situation-là, disait que l'enchaînement des matchs rendait difficile d'aller au bout des idées au niveau de la pression qu'on avait. Là, en juin, on était quand même très reposé. Je sais qu'on n'est pas avec un effectif complet, mais moi aussi, ça m'a interpellé le fait de voir là, qu'il n'y avait pas cette espèce de sentiment d'urgence là, alors que le match était encore à portée et ouvert là, pour peut-être revenir avec un match nul.
Oui, et d'autant que c'est pas non plus comme si c'était en dehors de leur portée. On l'a vu sur le but entre la combinaison entre Vilsain et Owusu. On a vu sur l'action ensuite où c'est Owusu et Vilsain là, qui combinent à nouveau pour cette frappe là qui a été arrêtée malheureusement là pour Montréal. Mais on a vu qu'il y a une capacité offensive de faire quelque chose. Par contre, ben, c'était trop peu trop tard. J'ai parlé d'un but anecdotique et évidemment lorsque tu marques aussi tardivement face à un adversaire comme Cincinnati, c'est certain que c'est dur d'avoir une fin hollywoodienne, mais Montréal aurait pu et aurait dû en faire plus bien avant dans un match sur lequel, bien franchement, et je le dis trop souvent malheureusement, mais l'adversaire n'a pas montré grand-chose, mais a montré suffisamment pour prendre les 3 points. Et c'est pas les premiers, c'est d'ailleurs la 8e fois que ça arrive cette année à domicile.
Ouais, tout à fait, c'est une soirée qui permet à Cincinnati de prendre le deuxième rang dans l'Est avec 36 points obtenus en 19 matchs depuis le début de la saison. Je vous invite à nous appeler 514-790-0919 pour poursuivre la conversation. Comment avez-vous vu ce match? Si vous l'avez regardé, écouté ou si vous étiez directement au Stade Saputo ce soir pour ce duel là, qui était présenté contre Cincinnati et qui là, ben, dans quelques jours, on va voir le prochain contre New York qui arrive déjà en ligne de mire. Et la semaine suivante, Sid, on va commencer par New York évidemment samedi, mais la semaine suivante, c'est un match contre Miami qui se profile samedi le 5 juillet. Évidemment, si Miami n'est plus en lice au niveau de la Coupe du monde des clubs, présentement, l'Inter Miami s'apprête à jouer un 8e de finale à la Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Ce sera dimanche, si je ne m'abuse, dimanche après-midi. Si Miami perd ce match-là, ce qui évidemment sur papier apparaît comme le scénario le plus probable, ben là le match contre Montréal aura lieu le samedi suivant, le 5 juillet. Si jamais Miami devait surprendre et gagner pour aller en quart de finale, ben là le match contre Montréal serait remis. On n'en est pas là évidemment pour le moment. Et ensuite le 9 juillet, ben c'est le match retour contre Forge. Alors on avait ce congé dans les dernières semaines au mois de juin et on a maintenant 4 matchs de suite à domicile ce soir. New York samedi, l'Inter Miami le samedi suivant et Forge ensuite le 9 juillet. Et c'est une séquence qui peut dicter un peu le rythme qu'on va prendre en deuxième moitié de saison parce qu'on l'a mentionné, c'est le début de la deuxième moitié de saison. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. La ligne d'arrivée, elle est encore très loin. Alors si on veut prendre du rythme un peu, cette séquence de 4 matchs à domicile est un bon moment.
Mais ça aurait dû être sûrement le premier match d'un nouveau cycle. Et je te rejoins sur cette lecture du calendrier, Jasmin. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est après le mercato estival qu'on pourra parler véritablement d'un nouveau cycle. Il sera probablement trop tard.
C'est le 24 juillet, si je ne me trompe pas, ça s'ouvre les arrivées.
Oui, et il sera probablement trop tard parce qu'on a beaucoup trop creusé dans le déficit côté montréalais d'un point de vue comptable. Mais pour le coup, on n'a pas l'impression que c'est avec cet effectif-là qu'il va avoir le moindre changement. Il y a des manques à combler, il y a des situations de concurrence à créer, et il faut changer d'effectif pour amener autre chose, parce que pour le moment, c'est un peu toujours la même histoire, la même chanson.
Et avant, Sid, cette fenêtre là, d'arrivée possible en MLS, il reste 7 matchs à jouer. Et donc, il n'y aura pas d'arrivée. Il peut y avoir des départs, parce que ça, c'est déjà ouvert dans plusieurs pays là, au niveau du mercato d'été, mais les arrivées ne se feront pas avant la mi-juillet, voire même la fin du mois de juillet. 7 matchs à jouer. Moi, je m'interroge notamment sur le milieu de terrain pour voir comment on va le jouer. Est-ce qu'un Joel Waterman, à son retour de la Gold Cup, pourrait être utilisé en milieu de terrain défensif peut-être? Sinon, les options au milieu de terrain, Bryce Duke qui est dans une vocation plus offensive, Sinchuk, vocation offensive. Et là, je ne te parle pas évidemment des Ibrahim, Graham Roche, tout ça qui sont en attaque. Il y a Fabian Herbers peut-être qui peut être un genre de milieu central, mais il n'y a pas beaucoup d'options en milieu de terrain là, comme milieu défensif, milieu central là, pour les prochaines semaines. Là.
Oui, mais après, d'un point de vue comptable, on peut s'amuser, mais j'ai l'impression que la saison, même si elle n'est mathématiquement pas terminée parce que tu as 10 équipes qui font les playoffs ou les play-ins, c'est très très mal engagé côté montréalais.
Donc, oh non, tout à fait. Ça,
on a le sentiment que on est déjà en train de préparer 2026 avec le mercato estival qui s'en vient, mais c'est compliqué, c'est dommage. Il y a parfois des petites choses ici et là qui sont bonnes à prendre. On va tout de même saluer ce but de Wosu là, qui est dans la continuité de ce que tu avais mentionné en avant-match, de sa bonne forme et sa capacité aussi à prendre une partie sur ses épaules.
Campbell, mais, bon match ce soir.
Comme Campbell, Neil aussi, on a apprécié, mais à chaque fois, il y a toujours des petits bémols parce qu'on est incapable de s'inscrire dans une forme de continuité côté montréalais. Donc c'est là où ça devient plus compliqué sur un effectif là dont on sait, parce que c'est ce qu'a dit le président lors de sa dernière conférence de presse, il faut faire encore du ménage, mais avant tout, il faut réussir les arrivées avec des joueurs en santé et en capacité d'avoir vraiment une réelle influence sur la suite des choses.
514-790-0919 au niveau des lignes ouvertes. Si vous voulez collaborer avec nous pour cette émission d'après-match, pour l'instant, je vous propose qu'on s'arrête. On est toujours en attente du point de presse d'après-match du CF Montréal. On vous revient dans quelques instants avec ce point de presse qui va débuter. Et on est de retour en direct du stade Saputo pour l'émission d'après-match de ce duel. Le point de presse qui commence à l'instant avec David Sauvry. On va aller écouter ça.
C'est souvent le même film au stade Saputo cette saison. Les défaites qui s'accumulent toujours pas du tout après notre match. Comment expliquer la difficulté à gagner cette saison?
Écoute, je pense que on est déçus déjà, premièrement, ça c'est sûr. Après, je pense que le match, on l'avait plutôt bien préparé. On fait une entame qui est cohérente, où on se crée des occasions. On peut mener au score. Et encore une fois, sur certaines erreurs individuelles, on est puni. Ça nous arrive beaucoup trop cette saison. Je pense que de rentrer à 0 à la mi-temps, ça nous met en difficulté. Plutôt que de rentrer à 0-0 et de garder ce momentum et de continuer à pousser. Et puis après, on prend ce deuxième but qui fait mal, parce que tu sais que là, ça va être encore plus compliqué de revenir. Forcément, après, quand tu pousses après, tu essaies de faire des changements pour aller chercher le 2-1 pour revenir dans ce match-là. Encore une fois, tu es exposé. Encore une fois, on peut peut-être être plus précis sur certains aspects défensifs individuels. Et après, une fois que tu as pris le troisième, c'est compliqué.
L'FC Cincinnati, c'est une équipe qui a beaucoup de talent. C'est quoi la difficulté comme entraîneur, comme équipe, pour apporter des ajustements, pour être sûr de bien contenir les joueurs comme Evander, des gars comme ceux qui ont beaucoup de talent et qui sont dangereux dans le dernier temps?
Encore une fois, je l'explique, on a préparé de la meilleure des façons. On savait très bien que des joueurs comme Evander ou leur avançante étaient des joueurs de qualité, qu'il ne fallait pas leur laisser d'espace, qu'il fallait être capable de gérer ça. On a un système défensif qui est quand même assez agressif. On n'a pas peur d'aller chercher sur des joueurs même de très qualité individuellement, même si autour de ça, on travaille collectivement. Donc on l'a travaillé, mais encore une fois, on fait des erreurs sur le premier but qui nous coûtent encore une fois des situations et des buts. Après, ce n'est pas juste l'erreur, parce que même après ça, on peut mieux défendre dans la boîte. Donc on l'avait préparé de la manière, encore une fois, individuellement, en sachant aussi quels étaient les points forts de ces joueurs-là et comment les éviter. On a contenu pas mal de ces assauts-là, on va dire, et après, malheureusement, pas assez.
Félicitations, quand même, après les matchs. Tout le temps de jaser, tu sais, ça fait 30 minutes que le match a commencé et terminé. Tout le temps de jaser avec Marco Donadel, avec des membres de la direction, des joueurs, c'est quoi le vibe actuellement? C'est quoi cette défaite-là? Est-ce qu'il a fait plus mal qu'un autre? C'est quoi le vibe en ce moment?
Bah, ça fait mal, oui. J'ai parlé avec les joueurs, j'ai parlé avec le staff qui était présent. J'ai pas parlé avec d'autres personnes encore. Ça fait mal parce qu'en fait, on a l'impression qu'on travaille bien quand même à l'entraînement. On travaille fort. Certains d'entre vous sont là souvent et le voient. En plus, on avait l'impression qu'on avait créé quand même un momentum après le match de Houston où quand on fait pas d'erreurs, on peut compétitionner contre n'importe qui. Et c'est ce qui s'est passé à Houston. On a limité toutes les erreurs individuelles et on a gagné à la fin. Donc ça fait mal parce qu'encore une fois, on est en train de construire quelque chose et on se dit on pouvait créer ce momentum positif, démarrer une série et après tout est possible. Donc ça nous remet un petit peu dans la situation compliquée. On n'arrive pas à rebondir par rapport à ça ou capitaliser. Donc ouais, forcément les joueurs ils sont abattus, ils sont déçus forcément parce que c'est des compétiteurs. C'est pas facile pour nous cette saison-là de pas prendre beaucoup de points. On joue, on s'entraîne pour gagner des matchs et pour l'instant, on en perd plus qu'on en gagne, c'est la réalité.
Vous parlez d'erreurs individuelles qui vous ont coûté. Est-ce qu'il y a des fois comme ça, c'est des soirs où l'adversaire est vraiment supérieur, est-ce que c'est ce que vous avez senti sur le fait? Parce que nous, notre tribu, c'est vrai que après peut-être le premier but, mais on a senti quand même le collectif de Cincinnati vraiment supérieur, surtout quand ils arrivent dans le dernier tiers avec justement les Deke, les camarades, les Vader, dans leur déplacement aussi.
Non, on savait qu'ils avaient de la qualité. On sait que c'est une équipe pleine de qualité. Donc forcément, quand tu joues des joueurs de qualité, de les contenir pendant 90-95 minutes, c'est compliqué. Après, comme je le dis, il y a des moments charnières dans un match. Si on rentre à la 0-0 à la mi-temps, je pense que c'est un moment charnière pour nous parce qu'on peut capitaliser sur ça. Et pour moi, le premier 30 minutes, on a certaines situations où c'est peut-être nous qui devons mener au score. Et là, la dynamique, elle s'inverse. Et je pense que le momentum, encore une fois, il est hyper important. La partie mentale et le momentum, on l'a perdu en prenant ce premier but-là parce qu'encore une fois, on doit courir après le score. Malheureusement, quand on court après le score, ben, dans les têtes, ça joue aussi parce qu'on a beaucoup trop couru après le score cette saison. On l'a vu à Houston. Dès qu'on a mené au score, il y a aussi un capital confiance qui se crée de la part des joueurs. Et là, tout de suite, quand tu es plus en confiance, peut-être aussi que tu fais moins d'erreurs ou tu es plus agressif sur certains moments charnières. On a eu le feeling aussi que quand on a gagné les ballons hauts, on sert à certains moments de transition, on aurait peut-être pu les punir un peu plus et on a préféré jouer un petit peu plus la sécurité ou pas s'engager offensivement. Donc voilà, encore une fois, pour moi, les moments charnières, ils sont hyper importants dans un match et je pense que là, on ne les a pas bien négociés comme on a pu les négocier à Houston.
Ma question de volet, premièrement, il y a trois joueurs qui sont sortis sur blessure. Est-ce qu'on a des informations sur ces blessures-là pour l'instant? Et deuxièmement, avec justement les blessures, il y a des gars qui ont eu peut-être un peu plus de minutes qu'à l'habitude ce soir. Est-ce que, sans nécessairement nommer personne en particulier, est-ce qu'il y a certains joueurs qui ont gagné des points quand même dans ce match?
Concernant les blessures, je n'ai pas trop envie de commenter parce qu'honnêtement, je n'ai pas de retour sur ça. Et puis moi, je voulais aussi, même si j'étais juste, entre guillemets, le relais sur le banc parce que c'était moi qui prenais en charge aujourd'hui, il fallait que je redescende aussi émotionnellement parce que c'est la première fois pour moi d'avoir cette situation-là d'un entraîneur-chef sur un match MLS. Donc, j'étais vraiment dans le vestiaire en train de regarder un peu ce qui s'était passé sur le match. Donc, je n'ai pas de retour sur les blessures. Et marquer des points, quand tu perds dans une situation où tu finis à 3-1 et que on n'a pas forcément eu les résultats estompés sur les changements qu'on a eus. Marquer des points, je ne sais pas. Il faut revoir la performance. Encore une fois, je suis un peu. J'essaie de dire ce que vraiment je suis sûr parce que j'ai besoin de revoir le match aussi à tête reposée sur ça.
David, félicitations pour ta première sur le banc. Au niveau de ces moments charnières dont tu discutais, il y a plusieurs situations offensives assez claires, que ce soit de Pierce, de Silly, de Wilson. À quoi tu attribues votre manque de réussite offensive? Est-ce que c'est la lucidité? Est-ce que c'est des choix? Est-ce que c'est des manques d'exécution? Comment, toi, tu évalues ces moments-là qui, finalement, ne basculent pas dans votre sens?
C'est une bonne question. C'est difficile à répondre. Si on avait la réponse, on l'aurait peut-être réglé depuis un bon moment. Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque de lucidité? Je n'ai pas la réponse sur ça, parce que si on prend la première situation franche avec Tom, c'est Tom Pierce, on sait que la qualité de son pied gauche qu'il a, on sait qu'il est capable de la mettre, mais à ce moment-là, il ne cadre pas, il ne la met pas. Donc, franchement, si j'avais la réponse sur ça, je te la donnerais avec plaisir. Et on travaille sur ça, on essaie à l'entraînement de remédier à ça, sur tous nos problèmes de création d'occasion, de finition, de management, de moments, on va dire, charnières, comme on l'a dit, notamment à l'entraînement, en mettant des situations de compétition où les joueurs, où vraiment on essaie de les stimuler pour qu'ils aient ce moment de stress. Alors c'est sûr, c'est dur de reproduire un moment important d'un match officiel, mais à l'entraînement, on essaie de les mettre dans les conditions pour que, quand ça arrive en match, ils réussissent. Pour l'instant, on manque encore un petit peu ça, tout simplement.
Interesting. Hi, David. You know, it came and went in moments, but the defensive shape was strong in the first half, and even the goal, which was, you know, well worked, was, you know, for the most part, the chances were at a minimum. And the second half, it seemed a lot more open. Was that consciously because you were chasing the game, or was that just, you know, because of, you know, injuries and then replacements and just the natural progression of the game?
It could be a mix of everything. When it's 0-0 and you know your shape, you know your defensive game plan, you know your references, you're tight on your references, on your target, and you're in the game. But in the second half, working like we work, and they were losing a lot of energy, but we are losing a lot of energy as well. So obviously the space are a little bit more open. We try to push, so we put some forward players. So yeah, we are a little bit more loose defensively, obviously, because you are losing. If it's 0-0 and you continue with the game plan, I don't know, but you have to push. So when you push, maybe you are more exposed in transition, maybe you are more exposed in certain situations for sure. And yeah, but like I said, one more time, is for me, the moment where you concede the first goal is not the same, because the energy level when you're pushing to come back and when you are trying to maintain the score and exploit some moment, it's not the same. I don't know if I was clear. Merci. Bonne soirée.
Et on est de retour après donc les commentaires de David Sauvry. Première fois qu'on avait l'occasion de l'entendre après un match chez lui, évidemment, qui remplaçait Marco Donadel ce soir. Marco Donadel qui était suspendu pour ce duel-là et qui a donc laissé sa place à David Sauvry. Beaucoup d'éléments à mentionner en revenant sur ce point de presse qu'il a livré. David Sauvry a parlé de l'adversaire qu'il avait en face, on parlait de la préparation qui avait été faite pour affronter Cincinnati, vous l'avez entendu. Cette préparation-là a permis quand même à Montréal d'exister dans ce match-là, particulièrement en première demi, en début de première demi. Par contre, ensuite, ça s'est compliqué en fin de première demi et au retour des vestiaires également. Certaines qualités individuelles sont ressorties, Sid en parlait tout à l'heure, et c'est pas nécessairement un plan de match parfaitement exécuté par Cincinnati. Il y a aussi beaucoup du côté des individualités, notamment des Vander qui sont ressortis dans ce match-là et qui ont permis à Cincinnati de prendre le large. Il a notamment fait référence, David Sauvry, au match contre Houston en disant « Lorsqu'on limite les erreurs individuelles, ce qu'on a fait contre Houston, bien, on peut gagner contre n'importe qui dans cette ligue-là. » Ce soir, ça a moins été le cas et c'est ce qui a mené notamment à ces buts-là qui ont été inscrits et à ce revers-là. On lui a parlé, bien sûr, des blessures, vous l'avez entendu. N'a pas voulu s'avancer sur ce côté-là par rapport aux différents blessés en disant qu'on attendait toujours... On attendait toujours des nouvelles de ces blessés-là. Neil notamment, Clark également. Il l'a dit de manière très candide. J'ai trouvé ça intéressant d'entendre lorsqu'il a dit « J'avais déjà aussi l'émotion à gérer que c'était mon premier match en MLS comme entraîneur-chef. Alors, je suis revenu au vestiaire puis j'ai regardé certaines choses, parlé avec certaines personnes, mais j'ai pas eu le temps de m'attarder encore aux côtés des blessures. Lui était le relais, bien sûr, de Marco Donadel. » Toujours, je ne sais pas à quel point il avait le feu vert ce soir là, pour gérer le match comme il le voyait, ou s'il y avait un plan très clair qui avait été établi, peu importe, là, mais dans tous les cas, c'est lui qui était là comme entraîneur de charge pour cette rencontre-là ce soir. On va évidemment vous présenter dans les prochaines minutes les joueurs qui vont défiler au podium aussi pour le CF Montréal. On en attend évidemment un ou deux là, à chaque soir lors des rencontres. Alors, ça pourra suivre sous peu, bien sûr. On va vous présenter ça. Sid, qui est toujours du côté de la salle de presse au stade Saputo pour Pour ce point de presse, donc, d'après-match, je vous en parlais, on en a parlé tout à l'heure, le calendrier qui arrive pour Montréal, ben, ça va être samedi contre New York. Il y aura le retour de Marco Donadel, oui, derrière le banc, en fait, sur le banc de touche de son équipe. Mais au niveau du reste des blessés, là, ce sera difficile d'avoir l'éclairage pour l'instant là, sur qui sera disponible ou non, pardon. On sait que un gars comme Lotoury va fort probablement être réutilisé au milieu de terrain, mais qui sera son partenaire au milieu de terrain, ça c'est difficile à dire pour le moment. Est-ce que Piet va pouvoir tenir sa place? Est-ce qu'on devra, permettez-moi l'expression, bricoler un peu au milieu de terrain? Moi, ça m'apparaît pour être l'un des points particulièrement à surveiller là, pour samedi. L'état des blessés, on sait évidemment qu'il n'y aura pas le retour ni de Clark, ni de Herbers, ni de Sinchuk, ni de Vrioni. C'est pas du tout à l'ordre du jour qu'ils reviennent pour le match de samedi. Donc, c'est les effectifs qui étaient là ce soir, moins possiblement Neil, moins possiblement Clark, moins possiblement Piet aussi. Donc, ce sera à voir. Si jamais c'est le cas, on va commencer vraiment à être en manque d'effectifs. Est-ce que tu sais, on avait un joueur qui était à l'essai, là, Lewis, au cours des derniers jours, là, à l'entraînement de Jonathan Lewis, qui était à l'essai. Est-ce que c'est un joueur qu'on pourrait voir arriver? Quoi qu'en même temps, je pense qu'il ne peut pas. Je ne sais pas s'il peut s'amener là, pour un match à l'essai comme ça. La fenêtre de transfert en MLS qui va commencer seulement à la fin du mois de juillet. Dans tous les cas, tout ça pour dire, sans vouloir me perdre dans de la sémantique, là, que ce sera difficile de voir. On semble être prêt pour un joueur qui est au podium. C'est Prince Owusu qui est là au podium.
Pour notre premier win at home, and I think some players have or feel a little bit more pressure at home because we wanted so much that we have the feeling that we get like stiff, you know, and I think we have to get the stiffness away. Communicate more, you know, and be brave, more brave. Brave in the defense, in the offense. And I think we play too hectic or too nervous at home than away. I think we have to find solutions for that.
Nice. Interesting. Hi, Prince. Hold up play is a very important part of your game, but it felt like most of the game today you had your back to the net. What do you think needs to be done either yourself or collectively for you to get more touches going forward and facing the goal?
Yeah, like I said, bravery. I think in the beginning they started to press high, but later on they a little bit didn't went that strong for pressing. So I think we have to get players facing forward before me that I can do like a movement like back and forth to go into space. But we had we played too many bell boards back and we end up the goalkeeper, and I think this is what I said, like the pressure and the confidence, what we usually need to have as a home team is right now not there, because I think it's a mental thing, to be honest, because away you could see we play, even if it's not in our stadium, but I think we have to analyze this game tomorrow and take the good parts, learn from the mistakes. This is a big thing this season, to learn from the mistakes, you know, because we do a lot, too many individual mistakes again and again and again. And we have to learn from that quick, and and then move forward.
Hi, Chris. Thanks for your time. What do you think made the difference for Cincinnati? What have they done that you haven't been able to do?
To be honest, not much. The goals that they score, we kind of gave it to them. Of course, they have a lot of quality, but I think they didn't play their best game today. So it was a big chance for us to win this game. And yeah, but if you give them those kinds of chances, they are able to score or create some high potential goal chances of it. But sometimes I had the feeling we had too much respect for them. And this can't happen. Respect is okay, but too much is deadly against this team.
Prince, that was a balanced start, pretty equal against a team that is ranked higher than you. And then the game seems to slip away. And you have a good introspection. I think that during the game you see that. Mm-hmm. How can you act from your position to speak, to mobilize, to try to not see this trend going on, and find the connection that you did eventually find with Jules at the end of the game? Yeah.
No, of course I try to communicate between them, phases where the game stops, if it's throwings or fouls or some little stops in the game. But it's hard for me as a striker to direct or tell players what to do immediately before the action, because I'm the last piece of the game. So it's usually better if the communication starts from behind to the front. And this is also a part where we have to improve, you know, to speak more from behind to the front, because with communication you can delete or solve a lot of attackings from the opening team with just quick advices like left, right. Sometimes it's enough for not even get them to an attacking play. And this is also a thing where we have to improve communication, for sure. Thank you.
On vient d'entendre Prince Owusu, évidemment abattu au terme de cette défaite-là là, du CF Montréal, a parlé du fait qu'on a peut-être donné trop de respect à cette équipe de Cincinnati, que lorsqu'on en accorde trop à cette équipe-là, ben ça donne le résultat qu'on a eu ce soir. Évidemment, pas un match facile, et il était déçu, même si c'est lui qui a marqué en fin de match et que de manière individuelle, il est sur une dynamique intéressante, Prince Owusu. Dans les derniers matchs, il avait marqué 2 buts contre Houston et là, ben, il se retrouve à avoir marqué là, le seul but du CF Montréal ce soir dans cette défaite-là contre Cincinnati. Alors, est-ce qu'on va avoir un autre joueur qui va venir au podium? Ce sera à voir. Je ne sais pas si le point. Normalement, il y a un deuxième joueur là, qui pourrait venir. Mais enfin, vous avez entendu Prince Owusu et qui revenait donc sur cette défaite-là. Écoute, je m'excuse du silence. Là. J'essaie de savoir s'il va y avoir un autre joueur ou si le point de presse est terminé. Mais bon, dans tous les cas, ce sera un gars sur qui on va pouvoir se fier pour le prochain match. Assurément, Prince Owusu sera là avec Giacomo Vrioni qui est toujours absent. Ben écoutez, c'est là-dessus que ça va se terminer cette soirée ce soir du CF Montréal. Le CF Montréal qui s'incline 3-1 contre le FC Cincinnati. On va remercier toute l'équipe technique qui était avec nous, notamment Olivier Guillet, PO à la mise en onde, Jacob qui était là pour l'avant-match également, bien sûr, c'est Défaut qui m'a accompagné toute la soirée. On sera de retour samedi soir du côté de BPM Sport pour ce duel qui sera présenté contre New York. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la soirée. Rappel de la marque finale 3-1 pour Cincinnati ce soir contre le CF Montréal. On vous retrouve très bientôt pour la suite de la saison du CF Montréal sur BPM Sport. Bonne soirée à tous.